Vous écoutez
RMC.
RMC, 15h-18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le Super Moscato Show, c'est parti jusqu'à 18h. On est ensemble, bien sûr, comme tous les jours, avec Adrien Aiguin. On va écouter les meilleurs moments de la saison. Et alors aujourd'hui, on a un très beau programme, je trouve.
Oui.
D'abord, on a des superbes invités. Guillaume Guirado, au lendemain du titre de champion de France de Montpellier.
Interview qu'on n'a pas pu terminer, souviens-toi.
Absolument.
On vous laisse découvrir ce qui s'est passé si vous avez loupé ce grand moment. Un très bon Guillaume Guirado. Hein.
On revivra également quelques moments forts de l'émission. Alors, là, ce qu'on appelle, nous, les petits cadeaux, les pépites que Vincent nous laisse parfois au hasard, comme ça, en impro dans l'émission. Notamment à Toulouse, où il s'est mis à chanter du Nougaro avec le public. Et puis nos débats. Alors, au programme aujourd'hui, Quick Step manque-t-il de respect au Tour de France ?
Oui,
qui n'a pas pris Julien Alaphilippe en s'en est rendu
avec
compte.
Ce jour-là, un Éric Dimeco insupportable qui nous a dit « J'ai décidé d'être insupportable ».
Et il nous a manqué Alaphilippe sur le Tour de France.
Oh oui.
Alors ce jour-là, Florian Sénéchal n'était pas sélectionné. Et puis le lendemain, on a appris sa sélection. Donc c'est pour ça qu'on l'a inclus dans ce débat. Mais finalement, il a fait le Tour de France, le champion de France. On va parler de l'OL aussi. Quel avenir pour Lyon après le rachat par John Textor ? Et puis à 17h, une élimination précoce en Ligue des Nations serait-elle un problème ? On parle bien sûr de l'équipe de France de foot, qui n'est pas très très forte en ce moment. Je sais pas si vous avez
ça
remarqué.
Va nous faire parler à la rentrée du Super Moscato Show, Pyro, les Bleus, parce que la Coupe du Monde va arriver très très vite.
Il y a deux matchs de Ligue des Nations.
Retour du... Alors nous on appelle ça le SMS, le Super Moscato Show en direct, le lundi 22 août.
Dans une dizaine de jours.
Ça arrive vite.
Allez tout de suite, le débat du 2 février sur les légendes du sport. Tom Brady, Michael Jordan, Roger Federer, qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur ?
RMC, le Super Moscato Show.
La légende du football américain Tom Brady met fin à sa prestigieuse carrière à l'âge de 44 ans. C'est avec son club précédent, les New England Patriots, qu'il a surtout marqué l'histoire et accumulé les trophées et récompenses individuelles.
Bah non, le bouclier, c'est bon le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine. Quoi. Après, bon, le bouclier, c'est un morceau de plage, il flotte. Hein.
L'annonce de sa retraite sur Twitter a mis en émoi le monde du football américain.
Putain, meilleur mec. Putain de champion, gros.
Vous connaissez pas Tom Bradouille, vous n'avez jamais entendu parler de Tom Bradouille.
C'est un bout de play, Chapier.
Alors, on va parler de Tom Brady, le vrai, qui vient de prendre sa retraite, le meilleur joueur de football américain de l'histoire, le fameux GOAT. Qu'est-ce qui fait un GOAT ? Est-ce que c'est le palmarès ? Est-ce que c'est la longévité ? Est-ce que c'est le talent ? Est-ce que c'est la domination ? Nadal est-il vraiment le GOAT parce qu'il a un titre de plus ? Jordan sera-t-il un jour déboulonné ? Brady, Jordan, Federer, qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur ou pas ? Vous intervenez bien sûr au 32-16. Nous accueillons Arnaud Valadon, spécialiste des sports américains.
Salut à tous.
Salut. En balade.
Arnaud, alors ce qui est marrant dans ce débat, c'est qu'en NFL, il n'y en a pas vraiment de débat. Tout le monde considère que Brady est le meilleur.
Oui. Ah, le fameux générique de la NFL pour commencer sur la Fox. Et à Tom Brady, c'est l'histoire d'un joueur sur qui personne ne voulait miser. En 2000, aucune franchise ne voit le potentiel de ce frêle et grand gaillard. 1m93, 90 kilos, jugé lent et peu athlétique. Au moment où la Ligue américaine ne jure que par les quarterbacks mobiles et coureurs, il est drafté par les Patriots en tant que 199e choix, 7e quarterback choisi dans la hiérarchie. Et la suite de l'histoire est tout simplement prodigieuse. D'abord remplaçant du titulaire Drew Bledsoe, il va profiter de la blessure de ce dernier en septembre 2001 pour prendre sa place et s'imposer, gagner le Super Bowl 5 mois plus tard, le premier d'une longue série. 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 et 2021, avec là non plus les Patriots, mais Tampa Bay, car Brady à 43 ans avait changé de franchise. Il a gagné sans son coach de toujours, Bill Belichick, 7 Super Bowls au total en 10 participations, soit une présence une année sur deux, record absolu de titres dans une des ligues les plus dures et compétitives du monde. Le deuxième est à 5 Super Bowls. Joe Montana, lui, est à seulement 4. 5 fois meilleur joueur du Super Bowl, 3 fois meilleur joueur de la saison, record de touchdown réussi, record de yards parcourus à la place, record de victoires en saison régulière, un surnom, The Comeback Kid, en référence aux nombreuses remontadas qu'il a effectuées durant sa carrière, et la plus belle en 2017 au Super Bowl contre Atlanta, avec un déficit de 25 points dans le troisième quart-temps.
Incroyable, Pierrot.
Toss to White. He's in. Patriots win the Super Bowl.
Et il fait le drive de la victoire en prolongation. Sa carrière de 22 ans s'arrête sur une défaite à la dernière seconde, un peu à la Brady, contre les Rams de Los Angeles en demi-finale de conférence à l'âge de 44 ans. Brady, c'est une fortune estimée à 210 millions d'euros. Il est l'époux de Gisele Bündchen, la mannequin brésilienne, qui est probablement aussi connue que lui dans le monde. Et aux États-Unis, il n'y a pas de débat. Il est le plus grand de son sport, voire pour certains, le plus grand athlète de tous les temps. Mais là-bas, la lutte est entre Brady, Michael Jordan, Tiger Woods et le hockeyeur Wayne Gretzky.
Ouais, que des sports très américains. Il y a le golf qui est un peu plus ouvert sur le monde, mais sinon c'est quoi ? C'est les stars des sports américains. Donc,
exactement.
Brady, Jordan, Tiger Woods
et Wayne Gretzky. Et Wayne Gretzky revient énormément chez les Américains.
NHL, le hockey.
Le grand buteur de l'histoire qui a 8 titres de MVP.
Ouais, pour les Américains, ça reste très américain au niveau des sports.
Alors pour la NFL, c'est facile parce que Brady a le plus grand nombre de titres et en plus c'est celui qui a le plus duré dans le temps, qui a le plus dominé. C'est difficile d'avoir vraiment un concurrent, c'est difficile d'avoir vraiment un débat. En revanche, dans les autres sports, c'est très différent, Vincent, puisque Jordan n'est absolument pas le plus gros palmarès du basket, et même de loin, il est très dominé par Bill Russell, c'est ça, Stephen ?
Ouais, 11 bacs, Bill Russell. Il y a 6 joueurs qui ont plus de bacs que Michael Jordan, mais Bill Russell est celui qui avait le rôle le plus important et qui a le record.
Nadal, Federer, 21, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter, et puis beaucoup considèrent Federer comme le meilleur de quoi qu'il en soit.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui fait qu'on est un GOAT ou pas, Vincent ?
Un GOAT, parce que t'es le meilleur, t'as les meilleurs records.
Les
records en sport, c'est extraordinaire. Alors après, t'as des mecs qui ont une personnalité incroyable comme Jordan. Et donc ça, c'est rare. Ça, c'est le mec qui fait sa place. Tu l'as dit, c'est Russell qui a peut-être le meilleur palmarès. Mais Jordan est derrière avec un palmarès extraordinaire. Mais il a une telle personnalité, une telle réussite professionnelle ailleurs, qu'il est connu dans le monde entier. Il n'y a pas de combat avec Michael Jordan. C'est la star. C'est comme c'est Mike Tyson. Les hommes les plus connus sont Mike Tyson et Jordan. Même si ça fait 20 ans qu'ils ont arrêté, dans les sportifs, aucun va te dire Tiger Woods, les mecs, il est connu partout. Mais il y en a peut-être au fin fond, peut-être de l'Asie ou d'ailleurs, qui vont te dire je ne sais pas qui c'est. À la limite, Tyson, Jordan, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Eux, ils ont fait des différences qui sont énormes. Après, Tom Brady, en termes de record, c'est quand même comme Nadal, c'est des records. Après, tu peux dire oui, mais l'autre, il est un peu plus stylé, il est un peu plus joli à voir jouer.
Oui,
on fout de ça. Oui, mais ça, on s'en fout. C'est l'efficacité qui compte. L'efficacité, parce que d'abord, à ce niveau-là, les mecs ont tous un talent extraordinaire. Donc, ils sont talentueux. C'est pas un besogneux. C'est pas une rose contre un bouquet de roses. Tu vois ce que je veux te dire, Pierrot? C'est du tous ont un gros talent. Alors, il y en a qui est un peu plus souple, qui a une volée peut-être un peu plus jolie, papillonneuse, tu vois. Un truc un peu plus light, léger, butterfly. Tu vois, un truc joli. Mais on s'en fout. À la sortie, ce sera les résultats qui compteront.
Et butterfly.
Pour l'instant, Nadal est devant. Après, Brady, c'est exceptionnel. Brady, c'est le mec incroyable.
Mais en tennis, tu mets en avant les records.
Un tennis, tu mets en avant les records. Il restera que ça.
Bah, chaque sport.
Moi, je pense pas.
Moi, je mets pas le record en priorité parce que tout est. En fait, ils sont tellement influents dans leur sport et dans leur collectif. Alors, je parle des sports collectifs. Que finalement, les records, ils viennent parce que ils sont spéciaux, quoi.
C'est les meilleurs.
Parce que c'est des gens à part qui ont une telle influence, une telle aura sur leur groupe que bon, ils transcendent leur groupe.
Et qui changent parfois le sport.
Et qui changent leur sport et puis qui les amènent très haut. Donc, si tu veux, les records, mais les records, c'est eux qui les amènent. Donc, si tu veux, pour moi, c'est lié. Les deux sont liés. Après, je pense que chez ces gens-là, c'est quelque chose qui touche l'irrationnel pour moi, c'est-à-dire au niveau de l'intuition.
De déterminer qui est le meilleur, oui. L'irrationnel.
Oui, non, mais pas que ça, c'est même chez eux, quoi. C'est-à-dire que au niveau. J'ai pas envie de comparer l'un par rapport à l'autre, ça m'intéresse pas.
Mais c'est ça qui est rigolo.
Oui, mais
c'est ça qui fait toutes les discussions.
Qu'est-ce qu'ils ont, les GOAT de sport. Chez les GOAT, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres?
Qu'est-ce qui fait que tu es le GOAT ou pas le GOAT?
Oui, mais les GOAT dans ton sport.
Qu'est-ce qui fait que Nadal est meilleur que Federer ou que Federer est meilleur que Djokovic?
Je pense qu'il y a. Eux-mêmes, c'est ce que disait Willander dans l'équipe il y a deux jours, il disait que même eux, ils ont pas la réponse. Qui savent même pas pourquoi eux ils arrivent à un tel niveau à des moments d'un match
toi tu dis qu'est-ce qui fait que ces mecs là sont des champions. La question c'est pas ça, la question c'est comment tu les départages.
Moi je départage
comment tu détermines si Messi
moi je les départage par rapport alors au palmarès oui et non mais après
à la
résilience par rapport à la résilience
c'est sérieux
simplement. Ah oui mais complètement. Mais non mais je suis sérieux.
Non mais là il est très sérieux. mois t'es sur le terrain, ou que tu comptes les mois t'es sur le terrain,
mais
de jours t'es le star.
Mais non, mais quand t'es sérieux,
3 pour la résilience alors, c'est quoi?
Donne un exemple. Par rapport à une blessure, on va prendre Nadal par exemple, le dernier Nadal. Il y a 2 mois, il est en béquille. Le mec, il sort de nulle part. Il va presque arrêter le tennis.
Sa légende,
il va arrêter le tennis. 2 mois après, il gagne l'Open d'Australie. Mais contre Medvedev, qui est le numéro 1 mondial.
C'est la résilience, ça.
Ben oui,
la résilience. T'as la jambe cassée, tu reviens, c'est la résilience. C'est du courage, c'est la rééducation. Ça, c'est des nouveaux mots à la mode. Qui n'existait pas autrefois. Et au moins, on y comprenait quelque chose avant. Résilience, je comprends pas ce que vous voulez dire à chaque fois. Donc, j'ai l'air comme, mais explique-moi ce que ça veut dire, résilience. Si ça veut dire attendre et se rééduquer à l'échelle ostéopathique.
À rebondir, à se relever. C'est comme Sancho Panza, quand on met Don Quichotte, tu tombes et tu te relèves. Voilà, c'est ça la résilience.
Après, lundi matin, quand on a pris le dimanche, le lundi matin, quand tu reviens, t'es en résilience.
Oui,
t'es revenu.
Exactement.
La résilience, c'est tout le temps. Moi, j'étais posé de pêche, je suis revenu. J'étais mieux, je suis en résilience. Voilà,
mais non, la résilience, c'est pas revenir d'une blessure. Mais non, la résilience, c'est revenir d'un drame.
D'un traumatisme. Voilà.
Je finis juste.
Dans les cabines après moi, tu vas voir, c'était un drame.
Vincent, avant. Alors.
On peut arrêter la semaine là.
Avant les discours, alors Pierrot, avant les discours, au moment où les trophées vont être remis, il présente Nadal, ouais. Et le premier mot qu'il dit, c'est resilient.
Tout à fait.
Pour départager les mecs comme ça, moi, le vrai bémol que je mets à Tom Brady, parce que j'ai aucun doute que c'est le plus grand joueur de football américain de l'histoire, et même devant Joe Montana, parce qu'il a pété tous les records, c'est la mondialisation de ce sport. C'est quand même la NFL qui est majoritairement populaire en Amérique du Nord, un petit peu en Europe, mais ça touche pas la planète entière.
Non.
Jordan, Federer,
Moins que la NBA,
que le tennis aussi. Donc c'est pour ça que Brady, l'avantage qu'il a par rapport à Federer et qu'il a par rapport à Jordan, c'est qu'il se barre alors qu'il est au sommet et qu'il est parmi les 3 meilleurs joueurs de la ligue. Ce qui n'est pas le cas.
Et longévité de folie.
Et longévité de folie. Mais la longévité, Federer là aussi, puisqu'en 2018, il gagne quand même le Grand Chelem, l'Open d'Australie, à 37 ans. Mmh. On rappelle que Nadal a que 34 ans quand il gagne en 2021. Mais. Ah, le problème que j'ai avec Jordan, enfin, c'est même pas un problème, c'est que ce mec-là a permis au basket.
Il a que 35 ans, Nadal. Hein.
Que 35 ans, ouais.
Pas que 34 ans.
Que 35 ans. Mais Jordan, le problème, non, c'est que le basket n'était pas grand-chose avant, même s'il y avait des Jabbar, des Will Chamberlain, c'était pas médiatiquement.
C'était pas comme tous les sports.
Oui, mais c'est Jordan qui a fait basculer le
basket.
Sur une autre planète.
C'est Nadal qui a fait basculer le tennis, c'est Jordan qui a fait basculer le basket.
C'est faux. Parce que le tennis était perdu après Pete Sampras, et l'arrivée de Federer a permis au tennis aussi de devenir populaire.
Parce qu'il est arrivé un peu avant Nadal.
Oui. Parce qu'il est arrivé un petit peu avant Nadal. Maintenant, Tom Brady, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. Et moi, je me demande pas si Tom Brady, il ferait pas juste une petite pause d'un an pour faire plaisir à Gisèle et ses enfants.
C'est possible, tu penses?
Je sais pas, parce que c'est encore un des meilleurs du joueur.
Tu l'as eu, Gisèle?
Un des meilleurs du monde. Non, je l'ai pas eu, Gisèle, elle m'a pas répondu.
T'as peut-être raison, parce que c'est un mec, tu sais pas ses limites. Bon, là, il a 44 ans, quand même. Ça va commencer à devenir chaud, quand même, un peu au niveau des réflexes et tout ça. Mais peut-être parce qu'à 44 ans, quand t'arrêtes, là, le lendemain, ça va être pire parce qu'à 34 ans, t'arrêtes, c'est normal.
À 44 ans, c'est dur de s'y remettre.
Ouais, mais c'est un poste particulier.
Il va s'ennuyer.
Là où Tom Brady est monstrueux, c'est qu'il fait 19 ans chez les Patriots. Il gagne et qu'il change d'équipe et il regagne direct avec une autre équipe. Et ça, c'est très fort. Ce que Jordan n'a pas fait avec Washington.
Et surtout, tu sais quoi, il fait rentrer un sport qui est, tu l'as dit, pas connu mondialement. Tom Brady, il est connu. Il arrive à être connu mondialement. Alors, encore une fois, je te dis pas qu'il y a des endroits dans le monde où tu ne connais pas, bien entendu. Mais enfin, il arrive d'un sport qui n'est pratiqué qu'aux États-Unis.
Il aura mondial.
Il va intéresser toute l'Europe, tout l'Occident, voire l'Asie, parce que le Japon, tout ça, le Japon, c'est sûr, ils sont friands des sports américains, comme le baseball, le basket, tout ça, ils en sont friands. Mais c'est un truc de fou. Ce mec-là est un phénomène. Et en termes de record, il est au-dessus de tout le monde.
Parce que dans ce sport-là, qu'est-ce qui fait qu'on est le GOAT, qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur ou pas?
On a bien compris que tu préférais Nadal, Steve.
Brady, Jordan, Federer, on t'écoute. Stéphane au 32-16. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Salut Stéphane. Avignon, le Vaucluse, on s'intéresse à la NFL dans le Vaucluse.
Avignon,
c'est ça. Je fais même des nuits blanches NFL, NBA depuis un mois là.
Bravo.
Parce que je veux suivre ça de près. Bon, déjà, il y a le seul truc qui me gêne, c'est que vous mettiez des basketteurs au milieu, parce qu'on est sur un sport d'équipe. Et pour moi, le GOAT, c'est aussi le mec qui rend les gens meilleurs autour de lui. Et donc là, Federer, Nadal, ils sont tout seuls. Et Tiger Woods, pareil, sur le golf.
C'est forcément subjectif, il faut l'assumer.
Donc déjà, pour moi, dans les critères pour être le GOAT, c'est quelqu'un qui rend les gens meilleurs autour de lui. Donc voilà. Après,
Federer m'a rendu meilleur, moi, Stéphane.
Dans ta vie perso.
Dans ma vie perso.
Dans ma vie perso, ouais.
Laetitia nous l'a raconté.
Jordan, quand tu lui tenais le cigare à Jordan, il te rendait meilleur aussi.
Je vous donne un exemple par rapport au cinéma, par exemple. Bon, ben, dans Le Fils à Joe. Il est pas très bon, mais dès que Vincent est à l'écran, le film il est fabuleux.
Ne le dis pas aux autres, il me faut plus tourner.
C'est paradoxal ce que tu dis. Donc tu devrais donner la prime aux joueurs des sports collectifs, du coup.
Eh ben, c'est ce que je dis.
Non, tu dis que ce qui me gêne, c'est de mettre des basketteurs au milieu comme s'ils n'avaient pas leur place.
Ce qui me gêne, c'est de mettre des tennisman et des
golfeurs
au milieu.
D'accord.
Oui, mais t'as pas tort.
Stéphane, ton avis, vas-y.
Donc, pour toi.
Mon avis, sérieusement. Donc, le GOAT absolu pour moi, c'est Jordan. Parce que même si maintenant il y a des LeBron James et tout ça, ces gars-là sont devenus ce qu'ils sont parce que Jordan a ouvert une nouvelle ère et un autre monde. Il a fait devenir l'NBA sur le monde entier. Voilà, il a mondialisé. Il faut quand même savoir qu'en 95, il y a eu un sondage, un vrai sondage dans le monde. Les trois visages les plus connus au monde, en 95, c'était le Pape, Jordan et Mickey Mouse. c'était un truc de fou, quoi. Voilà.
Il fait l'année de sortie du Fils à Joe, il y a Vincent dans les trois. Hein. Ouais. Pareil. Ouais.
Non, ouais, pas oui, Vincent, Pompon.
On l'appelait le Mickey du Tarn.
Après, voilà. Et puis après, aux États-Unis, on est friable de chiffres. Donc, de point de vue statistique, OK, Jordan a gagné que 6. Mais comme on est sur la résilience, n'oublions pas que son père a été mort et que pendant 3 ans, il n'a pas joué. Hein, il n'a pas voulu venir, il a fait une pause de 3
ans. Grosse coupure, effectivement.
Un an pour revenir, donc ouais. Ça fait 2. Il aurait pu faire 8 titres, quoi. Voilà. Maintenant, après, est-ce que Brady sera le GOAT du football américain? C'est pas compliqué. Il y a des grosses émergences actuellement avec Mahomes, avec Lamar Jackson, qui sont des gens qui ont un gros charisme. Si dans 5 ans, quand vous prononcez le mot football américain, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est Tom Brady, c'est que c'est le GOAT. Actuellement, vous parlez basket, si quelqu'un du peuple basket, il va vous dire Jordan. Voilà. Et ben, donc si dans 5 ans, mais attention,
tennis, c'est quel nom qui te vient à l'esprit, Stéphane?
Ah ben moi je suis une génération, moi je suis désolé, même si j'adore Federer tout ça, moi j'aime le panache, donc moi c'est McEnroe qui me dit.
Oui, c'est l'époque ça. Oui, mais de la génération d'aujourd'hui.
Copains, 30 secondes, si je vous dis, et ça c'est un débat éternel aussi, et en rugby le GOAT alors?
Parce que moi je veux bien qu'on dise John Alomou, mais il a gagné.
John Alomou,
il est avec vous là sur RMC aujourd'hui.
Denis Charvet, c'est subjectif, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent, et le public parfois dit, John Alomou, c'est le meilleur de l'histoire.
Mais non, mais John Alomou, vous comprenez tout.
Palmarès,
John Alomou, il a impressionné par rapport à son tempérament, mais sa façon de jouer. Ce qu'il veut, c'est qu'il sortait de l'ordinaire. Donc d'un coup, il y a eu comme une effervescence, comme Chabal, de la même façon, qui a été très médiatisé.
C'est qui le meilleur de l'histoire?
Comparer John Alomou et Sébastien Chabal.
Mais non, c'est pas ça.
Qui est le GOAT du rugby pour toi?
Faut se mouiller.
Le GOAT, je sais pas moi, tu me fais rire, quoi. C'est dur.
Wilkinson?
Oui, je dirais Wilkinson. Ah, c'est le premier nom, c'est le premier nom qui m'est venu à l'idée.
Ouais, John Alomou, Wilkinson,
les deux.
Ouais.
Bah, je te dirais John Alomou.
John Alomou,
c'est le seul qui.
Là où il a raison,
c'est le seul qui a fait une dimension. Pendant le tournoi Destination avec l'Angleterre.
Il vient d'Aurillac. J'ai un texto d'un copain qui me dit Blanco, Alexandre.
Serge. Voilà. Serge Blanco, Jean-Pierre Rive et plus récemment Chabal
et Jacques Delmas.
Jacques Delmas quand il jouait 3ème ligne à Périgueux.
Et Bibi Oradou, il ne faut pas l'oublier.
Le Super Moscato Show revient tout de suite sur RMC avec un débat sur la Quick Step et Julien Alaphilippe qui ne fait pas le Tour de France. Et puis le cri du cœur, Philippe Saint-André, invité du Super Moscato Show juste avant la finale du Top 14.
Très chambreur, Philippe Saint-André, ce jour-là avec Vincent Moscato. Très
allez, à tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
RMC, 15h-18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le Super Moscato Show continue sur RMC. Dans un quart d'heure, c'est Apostruf. Adrien, on n'a pas donné le programme d'Apostruf.
Alors là, c'est une des meilleures anecdotes que Vincent. Nous n'étions pas au courant. Le jour où Vincent Moscato a coursé dans une boîte de nuit le producteur de cinéma Thomas Langman. Il a demandé pourquoi depuis 15 ans il ne le faisait pas tourner. Vincent va vous raconter les détails. Vincent s'est levé le lendemain matin avec la honte en lui. Oui, la honte en lui. Son épouse lui a demandé d'aller s'excuser auprès de
Langman.
Si vous ne
connaissez pas cette anecdote, écoutez bien, c'est donc dans un gros quart d'heure sur RMC. Juste avant cela, Philippe Saint-André, avant la finale du championnat de France. Mais d'abord, Quick Step, manque-t-il de respect au Tour de France en ne prenant pas Julien à la Philippe ?
Qui a eu l'idée ? Qui a eu l'idée ?
C'est un scénario que j'avais imaginé.
Tu veux des choix énormément, énormément, hein ?
Parler de hiérarchie, comme vous dites, voir comment ça va se passer.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Hein,
faire partie des favoris, peut-être, oui. Après, être le favori, non, pas du tout.
Non, vous préférez jouer des tours de compte dans le dos de votre bienfait. Hein, c'est ça ?
Maintenant, voilà, les compteurs sont remis à zéro et je me sens bien et j'espère que ça va aller de mieux en mieux.
C'est toi ! Flagelle la gueule à coup de cravache !
Quand on partait de Beaumont.
Allez, c'est l'actu du jour. Donc, Julien Alaphilippe ne fera pas le Tour de France malgré son retour sur les routes hier. Décision froide et sans affect de son équipe Quick Step. En prenant cette décision, donc, l'équipe belge prive le public du chouchou des Français, mais aussi du champion du monde. Par la même occasion, dans la même équipe, eh bien, Marc Cavendish et Florian Sénéchal, tous deux champions nationaux, ne sont pas sélectionnés non plus. Quick Step manque-t-il de respect au Tour de France? 32-16 pour réagir à cette décision. Alors, vous avez entendu tout à l'heure le patron du Tour, Christian Prudhomme, pas très content de la décision des Quick Step. On va essayer de comprendre cette décision avec Sarah Griffon. Bonjour Sarah.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Sarah.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'Alaphilippe a dit avoir de très bonnes sensations hier pour son retour au championnat de France, qui rend la décision encore moins facile à comprendre. Vincent, alors évidemment, les directeurs sportifs font leur choix à la limite. On n'est pas à leur place, on n'aurait presque pas à les commenter. Sauf que tu as bien compris que Florian Sénéchal, il a une paire de boules pas possible. Je pense qu'Alaphilippe aussi, et même Christian Prudhomme, qui est si souvent quand même réservé, nous l'a fait comprendre tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est un manque de respect pour le Tour de France ?
Ça manque de respect, oui. C'est un manque de respect. C'est surtout, il frustre tous les amoureux du Tour de France de pas voir Alaphilippe qui, encore une fois, Christian nous l'a expliqué la dernière fois, a gagné, je sais pas combien d'étapes, 17 étapes, c'est ça,
Pierre? Les jours passés
il a passé 14 ou 15 jours en 2019 en jaune. Enfin, c'est un type extraordinaire qui a gagné plusieurs étapes. Donc, ouais, il frustre tout le monde. Après, je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai vu Sénéchal, là, on a entendu, je sais pas comment ça va se passer parce que l'employeur, c'est comme la Quick Step, il va y avoir quand même une scission, ils vont vouloir dégager de cette équipe. D'après moi, ça va très mal se passer. Et puis je pense que la priorité de celui qui doit décider s'il fait le tour, un mec du statut d'Alaphilippe, peut-être pas Sénéchal, mais au moins du statut d'Alaphilippe, c'est lui. Mmh. C'est lui, quoi, tu vois. C'est
lui qui doit décider s'il est capable ou pas. Oui, je le sens, je le fais, quoi.
Eh ben oui, c'est tout simplement, parce qu'à un moment donné,
c'est pas joué.
Le marketing. Oh, arrête, commence pas à dire des trucs qui sont pas comparables.
Quoi, quand même, il aurait pu, vu leur.
Mais non, il n'aurait pas pu. Mais à un moment donné,
ils disent qu'ils veulent jouer. C'est pas sur blessure qu'ils sont moins bien, c'est parce que c'est la vie.
Ils sont moins bons.
Ça fait un moment qu'ils jouent pas, quand même, Ouadrogo, qui est depuis titulaire.
Cocotte aussi.
Ça n'a rien à voir. Alaphilippe, c'est quand même le. Et puis t'es en France. Encore une fois, on met des Danois parce que tu démarres en machin. Ben, priorité aux Français, puisque c'est le Tour de France. Encore une fois, Alaphilippe, c'est quand même le taulier de cette équipe. C'est quand même le taulier. Moi, je sais pas comment va être leur relation. Moi, si ça m'arrivait à moi, que moi, je décide de dire, ben, moi, je suis bien pour le Tour et que eux me disent non. Je pense qu'il y a une scission, c'est automatique. Il y a un problème, hein. Là, c'est envoyer les avocats et puis on se casse de cette équipe.
Hein. Pas d'accord avec ça, Eric.
Mais Maryse, je te le signe aujourd'hui. Hein, ils participent les deux là, notamment Alaphilippe. Hein, et il se manque qu'il est défoncé. Adrien va faire des débats quand on revient en août. Comme quoi, c'est un scandale de mettre Alaphilippe. Hein, je le connais par cœur. Hein.
Tu es fou.
Je les connais, ces oiseaux là.
Dans quelques minutes, c'est Apostrophe qui continue bien sûr sur RMC à l'horaire habituel. D'ailleurs, avant cela, on va réécouter Philippe Saint-André, le manager de Montpellier, qui était venu nous faire un petit coup de pile, nous tirer l'oreille avant la finale du top 14, parce qu'il estime qu'on a complètement négligé les chances de Montpellier. C'était donc le mercredi 22 juin en direct sur RMC.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Après Sidze qui s'élance, le ballon qui s'élève et qui va passer, entre les poteaux. Sidze, buteur d'exception ce soir, la première à 60 mètres, la deuxième à 55 mètres, et évidemment sur le banc de touche montpelliérain, on est en train de s'embrasser de fêter cette victoire. Baptiste, Jean-Baptiste Elissane, il est en train de faire les 100 pas dans la zone technique parce qu'il a compris que c'était la finale. Et à côté, Philippe Saint-André a quitté, Alexandre Ruiz a quitté la zone technique. Les Montpellierains vont rejoindre la finale, vont rejoindre le CO en finale.
Le manager de Montpellier, Philippe Saint-André, est notre cri du cœur dans le Super Moscato Show. Salut Philippe.
Oui, ben.
Salut, oh. Salut Moscato Show.
Salut Philippe, salut, qu'on est heureux salut, de te Philippe. Recevoir, Philippe.
Salut Philippe.
Ah purée, mais là, il y a Eric, il y a Vincent, il y a Denis.
Tout, oui, il y a tout le monde.
Il y a que les titulaires. Il y a que les titulaires du Moscato Show. Oh, purée. Là, il y a des experts. Alors là, il y a la science.
Oh là là.
Et ben j'en toi, mon Vincent.
Tu sais, j'en ai vu des choulards comme toi, mais quand même, l'an dernier, tu jouais la descente, et là, tu as une finale. T'as des trucs comme des chats, non? T'as un truc à côté de toi.
Est-ce que c'est le petit animal à poil de compagnie?
Bravo.
Bravo.
On l'avait dit depuis.
On l'avait dit, Vincent, nous.
On l'avait dit depuis.
Tu l'avais dit.
Non, mais comment on fait là? On est contre toi ou continue à être avec toi?
Non, continue à être contre moi. Non, mais Vincent, comme il dit tout le temps, il a des millions et des millions d'auditeurs. Et je crois que vous avez fait un tour de France la semaine dernière. Vous avez mangé comme des gorilles.
Oui, c'est vrai.
Mais il paraît qu'à Bordeaux, c'est bon. Vincent, il est chez lui. Enfin, il a beaucoup de chez lui. Mais à Bordeaux, apparemment, il avait emballé le moteur. Il a dit le paquet d'avant de Bordeaux, ils allaient nous culbuter, nous ouvrir en deux. Que les trois quarts allaient nous transpercer comme du papier cul. Et là, je t'assure, un message, j'ai 50 000 potes. Il est dit, je suis sûr que Vincent, c'est toujours ton pote. Ah, je peux t'assurer, Vincent, j'ai mis des pièces là.
Moi, j'ai pas dit ça.
Les 10 minutes à Guirado et tout. Et puis en plus, pronostic, ouais, Bordeaux, plus 14
non,
sur
non, c'est pas moi, là.
Si,
entre 8 et 14.
Non,
entre 8 et 14.
Toi, Denis, non, toi, Denis, c'est plus 15.
Non, arrête de me pousser,
Denis, la dernière fois qu'il s'est fâché un mec, il s'en rappelle pas.
Mais non, mais j'ai vanté vos qualités quand même devant.
Oh,
oui.
J'en peux plus.
Après la demi-finale, les amis. Non, mais bon, ça fait rien. Vous savez que je vous aime quand même.
Philippe, est-ce que ça te fait rire ou est-ce que ça t'agace quand même qu'on ait présenté Toulouse et Bordeaux comme favoris? Au final.
Je pense que surtout vous regardez pas tous les matchs du top 14 parce que ce top 14 est compliqué, il est âpre. Quand tu après 26 journées, quand tu finis premier et second, et ben ça veut dire que t'as une équipe, t'es pas une pompe à roulette, tu vois. Tu as une équipe, tu es costaud, tu es sûr de tes forces. Et puis après, ce qui a évolué, c'est que comme le championnat est de plus en plus dur physiquement, la semaine de repos a été un gros avantage, que ça soit pour Castres comme pour nous, comme pour le MHR.
Mais Philippe, est-ce que vous souffrez de ce déficit d'image? Parce qu'on peut, on est obligé d'en parler un peu. Je ne parle pas de la qualité de l'équipe, de la qualité du manager. Il y a quand même un déficit d'image, qu'on le veuille ou non.
Il y a un déficit d'image qui vient depuis longtemps, mais bon, sincèrement, sur l'équipe de la demi-finale, vous regardez ma formation d'équipe, il y a 11 Français qui commencent, qui sont titulaires depuis 2 ans. On a tout changé dans le recrutement, dans notre plan de succession. On recrute à 70% des joueurs français. On va chercher des joueurs en D2. Capelli venait de Grenoble, Béconnier venait de Mont-de-Marsan, Forletta venait de Perpignan en deuxième division. Donc on a.
On peut dire que c'est un recrutement d'Auvergnat parce qu'il est pas cher.
Si tu préfères, c'est un recrutement avec des gros potentiels, mais des joueurs aussi qui étaient en échec. Oui, Vérague, Chalureau, ils jouaient pas au Stade Toulousain. Donc tu sais, Vincent, je suis comme toi, j'aime un peu les mecs atypiques. J'aime aussi relancer des joueurs et là tu vois que bon, l'aventure est belle, mais il faut qu'elle soit encore plus belle et pour cela il va falloir être très très bon vendredi soir. Et
justement, il faut gagner.
Il faut gagner, mais bon, la saison dernière, comme Vincent a dit, il y a 18 mois, on était avant-dernier, mais la saison dernière, quand même, on enchaîne 10 victoires d'affilée, on se sauve, on gagne aussi la conférence européenne à Twickenham contre Leicester, donc déjà, tu vois, on a des mecs qui sont capables de gagner une compétition. Alors après, je vous ai écouté hier avec beaucoup d'intérêt, c'est vrai que Castres ont plus l'habitude, c'est vrai que Castres ont des titres, nous, Montpellier n'a pas encore de titres, mais c'est pour ça que c'est encore plus beau, c'est-à-dire on a envie d'écrire l'histoire de ce club.
C'est le truc sur l'image, c'est que vous avez payer les frais de trop d'étrangers. C'était absolument pas de l'amour, le truc qu'avait fait Altrad, par un manque de compétences, sûrement, mais parce que c'est pas son métier à la base. Déjà, merci à Altrad de mettre nos ailes dans le club et de s'intéresser au truc. Mais pendant des années, tous ces Sudaf et tout ça, ça saoulait. Au moment où on revenait à une formation avec une équipe de France où il y avait beaucoup de mecs qui étaient issus de la formation, vous étiez encore dans les trucs d'Afrique du Sud et tout ça, que ça devenait pénible. C'était à dégueuler, quoi. C'est le talonneur et tout ça. Les mecs, ils ont pris 30 points en finale. C'est ça qu'a dit l'entraîneur. Comment ils s'appellent l'entraîneur? Comment ils ont fait au Stade Français? Dès qu'ils ont mis Heineken au Stade Français, tout le monde, mais vomissait sur le club, quoi. Ouais. Tu vois, parce qu'on n'en pouvait plus. Ils mettaient l'adjoint Sudaf, tout ça. Et quelque part, ça a fait que, ben, ce club était, déjà, c'est un club qui est très neuf, hein. Il est, c'est en 87, 85, il a été créé. C'était non, pas une base.
Le,
à la
le
base,
déficit c'était... d'image, il vient surtout de là, parce qu'en face, t'as du poids lourd historique du championnat de France. C'est juste ça. Toulouse, c'est un nom qui parle plus que Montpellier quand tu parles rugby. C'est quand même avant tout ça. L'épisode Sudaf, il est digéré depuis longtemps, quand même.
Voilà, mais.
Ah, oui, Vincent, mais ça fait ça contribue.
Ouais, ça reste, mais où Vincent a raison, quand même, c'est que Mohamed Altrad, ça fait 11 ans qu'il a le club. Il a amené beaucoup de sa personne et beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais bon, il avait un entraîneur qui était Jacques White, donc il faisait confiance à son entraîneur. Et Jacques White, il connaissait plus le marché sud-africain que le marché français. Donc moi, quand il m'a fait venir, alors que je travaillais avec vous, le cahier des charges était complètement différent de recruter français, de revoir la formation, d'essayer de mettre un club de rugby avec nos valeurs. Et je crois que sincèrement le public de Montpellier cette année, il y a eu beaucoup de monde et les gens ils trouvent que l'équipe mouille le maillot, qu'on est solidaire. Alors on n'a pas peut-être les meilleurs joueurs au monde, mais on lâche rien, on plaque, on défend, on est discipliné, on est capable de marquer dans les zones de marque, on est un peu caméléon, c'est-à-dire qu'on arrive à s'adapter à l'équipe, et je peux t'assurer que il y avait une ambiance incroyable à Nice avec plus de 3000 supporters de Montpellier. Là, on sera plus de 3000 encore au Stade de France, et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à Montpellier.
Philippe, tu veux dire, Eric? Vas-y.
Non, juste, Philippe, outre le fait d'être en finale, est-ce que justement, peut-être une de tes fiertés ou à venir, ce sera pas de changer l'image du MHR, du coup, parce que tu nous le dis et peut-être qu'on le dit pas assez, oui, tu as francisé cette équipe-là, avec des joueurs qui mouillent le maillot, on a tous noté la performance de ton équipe l'autre soir.
Après, on s'est attaché à Toulon, où il y avait 13 équipes, 13 étrangers au coup d'envoi, ça marche aussi, hein.
Oui, mais
parce qu'il gagnait Toulon.
C'est incroyable, oui, ça gagne.
C'est une autre époque.
Mais il y a justement le changement d'image, puisque quand tu arrives en finale et quand peut-être tu vas gagner, tu changes aussi l'image que peuvent avoir les gens qui suivent le rugby ou ceux qui regardent de loin aussi, quoi.
Ben, sincèrement, depuis que je suis arrivé, c'est mon message avec les joueurs. Je leur ai dit, les gars, en plus, on est dans une grande ville, Montpellier, qui est très sportive, le hand, le foot, etc. Si on veut du monde au stade, si on veut que les gens s'identifient à nous, il faut qu'on donne énormément sur le terrain. Il faut qu'il y ait des sensations, il faut qu'il y ait des pleurs, de la joie, il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut qu'il y ait des mecs qui ne lâchent rien. Et c'est vraiment mon message est celui-là depuis que je suis arrivé. Et on essaye de faire beaucoup de choses avec les partenaires, beaucoup de choses avec les supporters. On essaye d'ouvrir le maximum le club, parce que pour moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, on a besoin que l'image change, et ça passe aussi par les résultats. C'est pour ça que vendredi est un grand rendez-vous pour le MHR.
Mais justement, Philippe, moi je vais être franc, avant ce match de cette demi-finale, c'est pas que j'avais un regard malveillant sur Montpellier, pas du tout, mais là j'étais impressionné. Et ça passe par des performances, tu l'as dit, je pense que sans performances, ce ne sera pas possible. Des performances sur le terrain, mais aussi.
Le jour du match significatif, pas plus, parce que
Philippe, sur le match en lui-même, dernière question, Philippe, sur le match en lui-même, depuis quelques semaines, tu avais des raisons peut-être d'être inquiet. Willem C qui n'est pas là, Cobus Reynard, votre numéro 9 qui est pété aussi, Arthur Vincent qu'on n'a pas eu pendant plusieurs mois. Il y a d'autres leaders qui ont pris le relais, franchement, ils sont incroyables. Est-ce qu'ils t'ont bluffé? Guy Rado qui fait des matchs là, énormes. Benoît Payog en numéro 9 qui a pris le relais de Reynard qui est de retour de blessure, incroyable. Est-ce que ton équipe malgré tout te bluffe encore?
Non, pourquoi? Parce qu'en début de saison, on a eu 5 blessés graves, on a eu 4 mecs qui se sont fait les croisés et on s'est adapté. Donc j'ai envie de dire, Paul Willemse, c'était dur, hein, il était sur le terrain à la fin du match, il pleurait dans mes bras, il apporte tellement à ce club et là il est absent. Mais on avait fait le deuil, hein, on avait fait le deuil de Paul, oui. On avait fait le deuil de Kobus Rehnak parce qu'on savait qu'ils allaient être absents sur cette fin de saison. Et j'ai vraiment un groupe qui, eh ben, ils sont solidaires, ils ont envie de... Et ils ont bouffé de la merde, hein, aussi, hein, il faut le dire. Hein, ça a été compliqué la saison dernière. C'est pour ça qu'on parle de pression. Hein, mais quelle pression? On n'a aucune pression. On va au Stade de France, on est encore présent. L'année dernière, sur l'avant-dernière journée, on jouait la descente contre Mayotte. Alors là, il y a la pression. Voilà. Comment?
Est-ce que Ouedraogo va jouer ce dernier match, le dernier pour lui en tout cas?
J'annonce vraiment l'équipe demain, mais Fulgence est très important dans la vie de groupe. Mais au poste de troisième ligne, j'ai beaucoup beaucoup de compétitions et surtout j'ai beaucoup de grands joueurs, donc ça va être compliqué pour Fulgence.
Ok. Voilà. Et est-ce que tu prends en considération le fait que c'est son dernier ou pas? Est-ce que ça peut éventuellement entrer dans ta réflexion?
Depuis la victoire en demi-finale, ça rentre bien sûr, mais mon job, c'est l'humain est important parce que je suis quelqu'un, j'aime mes joueurs et l'humain est primordial, mais j'ai aussi besoin de faire l'équipe la plus compétitive. Mmh. Et puis aussi, on est en fin de saison, on a des joueurs aussi qui sont fatigués. Alors, est-ce qu'on fait 6 et 2 et là, il y aurait une opportunité pour Fulgence, mais si on
la
fait
décision,
5,
va être, est-ce que tu fais 6 et 2?
Si on fait 5 et 3 ou 6 et 2, et voilà, t'as compris Vincent, exactement. C'est 5 remplaçants devant et 3 remplaçants derrière, parce que les 10 millions de téléspectateurs qui écoutent le Moscato, il y en a qui ne connaissent pas automatiquement le rugby. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais t'inquiète
Philippe,
pas que Philippe, il sait qu'il a une finale à gagner parce qu'il a dû me négocier une petite primette avec le Pro Valtrad.
Bonne chance, Philippe.
Ça va saigner
pour la finale.
Je sais que vous nous aimez tellement, donc vous êtes invité vendredi soir et je payerai à boire et à bouffer au Moscato Show vendredi soir. Okay, je vous envoie l'adresse. On est dans un bel endroit dans le centre de Paris.
Merci Philippe, bonne finale. Les meilleurs moments du Super Moscato Show, ça revient tout de suite. Adrien avec apostrophe.
Énorme anecdote, Vincent qui course dans une boîte de nuit un producteur de cinéma qui ne le fait pas tourner et on va parler c'est une de nos spécialités, NFT.
Oui,
c'est à la mode ça, les NFT. Vincent n'a toujours pas compris ce que c'est, mais ça nous régale.
Allez, à tout de suite, c'est le Super Moscato Show, c'est l'heure d'apostrophe.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
RMC, 15h-18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le Super Moscato Show jusqu'à 18h. Dans un quart d'heure, on va débattre de l'Olympique Lyonnais. Débat d'actualité, puisque ça y est, il est aux manettes. John Textor, il est très actif déjà sur le mercato. Quel avenir pour l'OL? Ce sera à 16h. D'abord, c'est l'heure d'apostrophe.
RMC. C'est l'heure d'apostrophe dans le Super Moscato Show.
Je vous l'avais dit, rendez-vous esplanade de la Barbacane, c'est facile à trouver, il y a un canon. Moi j'en vois deux.
Cette petite inspiration avant de lâcher sa punchline, elle fait beaucoup.
C'est
hein,
pas mis le doigt sur le coin des lèvres là comme ça. Oui. C'est du boulevard, c'est une tiers de boulevard. Ouais. C'est du...
Stéphane Thébault. Stéphane Thébault, ancien d'RMC, respect. Stéphane Thébault, respect à vie.
Ah ouais, respect.
Votre maison, la maison M ou la maison C8.
Il faut déjà avoir des joues pour faire ça, draguer devant une caméra. Là, c'est quand même costaud, non?
Il y a du boulard quand même dans l'air. Hein.
Je pense que la bête, quand même, doit être chaud sur la série Tendre et Sentimental dans les années 80.
Stéphane Thébault. C'est la deuxième saison d'Apostrophe. Il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a l'actualité. Pour suivre l'actualité, j'écoute régulièrement Estelle Midi, l'émission d'Estelle Denis qui cartonne. Je pense que Fred Pouillet, notre producteur, a fait les fiches d'Estelle aujourd'hui. Vous vous souvenez de l'histoire Loïc Perron-Bastaro? Parfois, Fred a des absences. Ouais. Je pense que Fred a fait la fiche d'Estelle. On écoute Estelle Midi qui reçoit un invité.
Nous sommes avec Thibault Langsade, le PDG de Jouve et vice-président du MEDEF en charge des TPE-PME. Merci Thibault Langsade d'être avec nous.
Bonjour, alors je vais quand même corriger deux choses puisque mon entreprise a changé de nom. Ce n'est plus Jouve, c'est Lumineux et je suis ancien vice-président et j'ai quitté le MEDEF il y a 4 ans.
Ah oui, donc on a fait une belle fiche. Hein.
Voilà, merci Fred pour la fiche. Merci Fred. Fred me dit oh, c'est pareil, c'est pareil. Ouais, écoute, tu la sens énervée Estelle?
Estelle, alors là je te dirais un truc.
Énervée là. on a fait une belle fiche.
Là, ça me parle au rock'n'roll sur le coup. Là. Je pense que ça va souffler derrière. Ouais.
C'est pas grave. Alors que chez nous, ça, bah, ça fait partie du concept.
Ouais, nous, on est contents quand ça arrive.
Nous, surtout, nous,
on en reparle le lendemain.
Ouais, mais d'abord, nous, on n'a pas de fiche. Donc, c'est réglé.
Nous, quand Fred s'est trompé entre Loïc Perrot et Mastaro, ça nous a fait 6 mois d'antenne derrière.
C'est vrai.
Attention, NFT, jingle business, c'est notre credo.
Actualité éco sur BFM Business.
Je vais aller couler un bronze et puis je vais faire une photo, vous allez m'acheter tout ça. L'action, tout ça, tu vois. Je le fous sur Internet. Tu vas voir les enchères comment elles vont monter.
BFM Business. Tu l'as fait, du coup, Vincent.
Mais non, mais je vais le faire, je vais vous l'envoyer. C'est un projet pour ce week-end. Voilà.
Ah ouais.
Alors, c'est la séquence.
Moi, je suis pas intéressé. Hein, mais ça,
c'est non fongible ou pas, Vincent? C'est la séquence NFT, en français, le jeton non fongible. Attention, première peut-être déception liée au NFT. En mars 2021, souvenez-vous, Jack Dorsey, cofondateur de Twitter. Il avait cofondé Twitter. Bonne idée. Il avait vendu un NFT de son premier tweet, le premier tweet rédigé de l'histoire. Il avait trouvé un acheteur qui s'appelle Sina Estavi. Ce monsieur avait acheté ce NFT 2,9 millions de dollars. Et il s'était dit, ce monsieur, je vais le revendre un jour, et je vais faire ce qu'on appelle une belle bascule, voilà, comme dans l'immobilier. Il a donc mis en vente cette semaine ce premier tweet, donc ce NFT. Il espérait en tirer 49 millions. Mais hier, la meilleure offre ne dépassait pas 10 000 dollars.
C'est Vincent.
Oh là là.
Donc Vincent, il a basculé, mais dans l'autre sens, Vincent.
J'ai confondu avec le premier SMS qui a été envoyé.
Oui, ça existe aussi. Ouais, c'est ça.
Ça existe aussi. Ouais. Le premier SMS, c'est une autre valeur.
Il a été vendu aussi.
Ouais, mais c'est une autre valeur, le premier SMS.
Ah, le premier tweet, on aurait pu penser, mais bon.
Ouais.
Donc là, ça marche pas. Alors, il tente un coup de bluff. Vous savez qu'Elon Musk veut racheter Twitter, Elon Musk, le milliardaire. Donc il a dit dans la presse, monsieur, ce serait dommage que le propriétaire de Twitter ne possède pas le premier tweet de l'histoire.
C'est vrai.
Donc il fait un appel du pied à Elon Musk.
Ah oui, il n'a pas vu arriver l'autre, tiens. Non, mais l'autre, il n'a pas vu arriver.
Il va lui proposer 5 000.
C'est ce qu'il va faire, il va faire 12 000, il va proposer. Je monte les enchères, 12 000. Ça peut prendre quand même une casquette.
Là, ouais, c'est dur, là. Il tente tout le tout pour le tout.
Sauf que.
Mais dans le temps, peut-être qu'il va rendre très cher.
C'est ça, sauf que tu peux le garder et puis. Un jour ou l'autre, il y aura le même couillon que lui.
C'est comme la bourse. Mais tant que c'est pas vendu, la bourse, t'as rien perdu.
Eric, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu vends ton premier sexto que t'avais envoyé à 94.
Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs exemplaires parce que c'est toujours le même qui
me mon premier sexto, c'est pas 94, c'est bien avant. Hein. Ah, et tu sais quoi, c'est comme, tu sais, dans les inconnus, le mec qui regarde toutes ses anciennes copines. Salut Nathalie, bon, boum, ça raccroche. Salut Véro, j'étais là, de passage, crac, ça raccroche. Tu sais, il fait toutes les
nanas. C'était pas des SMS, c'était des tatous, Eric. T'avais un tatou, toi, j'imagine. T'envoyais des tatous. Bon, voilà.
J'ai envoyé des lettres, je faisais des scènes dessus. Vas-y, les tam-tam.
Alors, je vais rappeler quand même la définition du NFT, à moins que Vincent, tu veux le rappeler, mais c'est compliqué. Oui.
Définition, non.
Pour tout le monde, c'est un format numérique qui permet d'associer à tout objet virtuel, qu'il s'agisse d'une image, photo, animation, vidéo, morceau de musique, un certificat d'authenticité enregistré sur la blockchain, la technologie qui sert de base aux crypto-monnaies comme le Bitcoin. Non. C'est plus clair comme ça, non? Voilà. Denis, un commentaire, Denis.
Écoute, non, mais le premier texto, par exemple.
Ouais.
Le premier, c'est quoi? C'est le premier, non, premier tweet.
Oui, premier tweet, ouais.
C'est le premier tweet. Donc, il est matérialisé pour le mec qui l'a acheté ou même pas?
Alors là, c'est une bonne question, tu vois. C'est ça où c'est là où ce truc est fascinant.
Ouais, je pense pas, là.
Parce que tu dois le recevoir que virtuellement avec
un écran. C'est sur un écran.
Ouais, c'est une photo, me dis-je pas.
Mais c'est sur une
écran. Ce qui veut dire, est-ce qu'elle a été enregistrée?
Il certifie l'authenticité, puis terminé.
Je suis pas sûr.
Voilà, ouais, non. C'est moi, je voudrais bien.
Parce qu'on te donne des mecs chaque fois.
On te donne rien.
Et voilà, c'est ça, c'est du vent. C'est le monde de maintenant.
C'est le monde du vent,
Il y a un mec, il y a encore un an, il m'a proposé 10 000 euros, pas la crypto, mais un autre truc comme crypto-monnaie, mais une autre monnaie, tu vois, tout comme ça. Le mec me dit, ça peut faire fois 100. Ça fait fois 100, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça fait fois 100.
Mais mon neveu aussi, la Swissborg, tout ça, tous ces nouveaux trucs, là, c'est.
C'est incroyable.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai regardé, moi. Mais le problème, c'est monté, mais c'est vite redescendu.
Sans transition, musique. Alors, info, projet de spectacle. Vous êtes tous dans le spectacle. Vous me dites si vous validez ou pas. C'est dans le Parisien que le producteur Thomas Langman, tu connais Vincent Thomas Langman, a annoncé. Il est en train de monter un spectacle. Hein. Il est en train de monter un spectacle à Las Vegas. Projet 2025, Vincent, une comédie musicale.
Qu'il me prenne, je te le
dis. Peut-être. Ouais. Comédie musicale, musique consacrée à.
Non, je ne regrette rien.
Edith Piaf. Alors, il explique, on sera en résidence au Mirage. C'est un établissement de spectacle à Las Vegas, comme avait fait Céline Dion pendant des années et des années. C'est budget, Vincent. Moi, j'y connais rien. Budget.
150 millions de dollars.
45 millions d'euros, le budget, pour la comédie musicale. Le spectacle représente toute la vie de Piaf, avec Cerdan, Aznavour, Montand, Brel, les décors de Paris. Et il précise, et ça c'est génial, il dit, les gens qui assisteront au spectacle auront une tenue dans leur chambre d'hôtel et vivront une soirée comme à l'époque, comme au Carnegie Hall.
C'est
pas
mal.
Et donc, attention là, ils ont choisi a priori la chanteuse qui va incarner Edith Piaf. Alors vous me dites si c'est bon ou pas, on l'écoute.
Je veux de l'amour, de la joie,
de la Zaz. Zaz dans la peau d'Edith Piaf, est-ce que ça vous plaît ou pas?
Physiquement, non, physiquement, elle fait le double ou le triple même.
Mais non, mais c'est comment? Comment
elle s'appelle? Film, Zaz, Vincent.
Comment j'aurais pris celle qui avait fait l'Eurovision?
Exactement,
là,
j'étais en train de chercher
Barbara Pravi.
Qui on dirait Piaf.
Qui a fait du mimétisme.
Oui, complètement. Moi, j'aurais pris celle-là.
Il lui faut un nom. Même tu vois, il y a beaucoup de
étrangers
qui viennent d'Europe et tout, donc il lui faut un petit nom quand même. Si c'est pas un nom international.
Non, c'est pas un nom international.
Oui, mais bon, Lino Renaud.
Nous, on a Michel Grenaz.
Ça existait, ouais.
Il peut pas jouer Michel Grenaz.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, Michel Grenaz.
Si vous voulez, ça m'étonnerait qu'il me fasse venir parce que je l'ai croisé cet été. Et je pense que.
Ah, le producteur. Il avait du travail.
Je lui avais serré la tête une ou deux fois et c'était pas bien.
Ah mince!
J'ai décollé, mais bon, j'en avais fait l'apéro, je t'ai pris.
Ah, tu l'as mis un coup de casque?
J'ai secoué là tous les sens.
Ah, c'est bon, ça, j'avais pas bien.
Comme Mika Lyon, un jour, il fait une mêlée, il lui a tué les vertèbres.
Ah non, mais quoi, je te jure, je te l'avais pas dit, celle-là, des fois, je suis pas fier. Le lendemain, je me lève, le syndrome de la douche, là, je l'avais.
Qu'est-ce que je lui ai dit?
Et toi, quand tu me feras tourner quand? Il me dit, mais je fais plus tourner personne, j'ai arrêté depuis deux ans. J'ai dit, allez merde, je t'ai attrapé par le cou comme ça.
C'était l'été dernier.
Eh bien, il est avec nous en direct. Bonjour Thomas. Il est avec nous,
le Super Moscato Show revient dans quelques instants sur RMC. On va débattre de l'Olympique Lyonnais. On écoutera Guillaume Guirado après le titre de champion de France de Montpellier. Débat sur Neymar, c'est un grand classique. Et puis alors, il y a quelque chose dont on ne vous a pas encore parlé, exceptionnel, 17h30. On va revivre un morceau de l'interview de Mike Tyson dans le Super Moscato Show.
Un moment d'histoire du Super Moscato Show, Pierrot. Ça s'est joué au... je crois que oui, on vous a déjà raconté plusieurs fois l'histoire. C'est une interview qui s'est décidée en début d'après-midi pour le Moscato Show qui avait lieu à 18h, totalement improbable. On a eu Mike Tyson en studio.
C'était déjà il y a quelques années, on va vous offrir ça tout à l'heure à 17h30 sur RMC. À tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.